Bonsoir. Clôture ce jeudi soir de la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif du Sénat. C'est le bureau provisoire de cette institution qui a procédé au lancement de cette campagne hier mercredi avec des discours au programme des candidats présidents et premiers vice-présidents. Dans cette plénière, chacun des candidats a sollicité une voix de chaque sénateur. À deux jours de la tenue de l'élection et de l'installation du bureau définitif du Sénat, quel est curseur des enjeux de cette élection? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous avons dans cette émission professeur Félicien Kabamba, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir Guy Maté.
Christian Moleka, analyste, il est coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir monsieur Christian Moleka.
Bonsoir Guy Maté.
Et Joseph Kongolo, analyste politique, et il est aussi coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bonsoir monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Clôture ce jeudi soir de la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif du Sénat. L'ego a été donné hier mercredi par les bureaux provisoires avec des discours programmes des candidats présidents et premiers vice-présidents. À l'inverse de tous, le candidat président Georges-Éric Makangou s'est désisté en faveur du candidat FCC, s'estimant les maillons faibles pour cette élection. Billy Ivan Lutumba nous en parle.
Éric Makangou reconnaît qu'il dispose des compétences pour diriger le Sénat, mais se trouvant entre deux éléphants politiques, ses chances sont minimes.
Mes chances ne me permettraient pas de devenir président du Sénat. Parce que, en étant indépendant, je n'ai aucune base, je me désiste. Je dirigerai mon choix vers le plus âgé, qui est le collègue Alexis Tambo-Mwamba.
Bati Lukwebo, candidat président de APTC et allié, s'estime plein d'expérience n'est plus démontré, ne ménage aucun effort pour s'installer au perchoir de la Chambre des Sages.
Moi, Bati Lukwebo modeste, une fois au perchoir, nous allons faire jouer à notre Sénat un rôle important au niveau sous-régional, régional et international. Nous avons l'ambition d'assurer une grande visibilité de notre Sénat à l'Union interparlementaire et à l'Organisation internationale des parlements des États souverains.
De son côté, Tambo Mwamba, candidat président du FCC devant ses électeurs, s'engage à conforter le positionnement du Sénat et son rôle au sein des institutions de la République.
Notre Sénat doit apparaître comme une institution de référence, institution phare de la République. Une chambre des sages et de la mesure, et je la conduirai à ce stade-là. Je dois avoir certainement à quelques occasions heurté l'une ou l'autre sensibilité de nos concitoyens, qu'ils acceptent sincèrement mes profondes excuses.
Le programme de la période de campagne qui se clôture ce jeudi prévoit à l'adresse des autres candidats partant du poste des deuxième vice-président à celui du questeur adjoint. L'élection et installation du bureau définitif interviennent le samedi 27 juillet.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa et aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Professeur, les débats sur l'élection du bureau définitif du Sénat semblent attirer l'attention de toute une nation, si pas du monde entier. Comment vous expliquez cela?
Oui, alors, vous allez le constater que actuellement, une bonne lecture politique des acteurs, des enjeux, laisse présager, si vous voulez, le recul de partis politiques au profit des groupements politiques. Et donc, les principaux acteurs, aujourd'hui, sont des groupements politiques. Et cette donnée de base vient de la faiblesse de partis. Et aujourd'hui, il est difficile de trouver en RDC un parti qui à lui seul peut mobiliser le un quart de l'électorat. Un peu comme cela se déroule en Tanzanie, au Congo-Brazzaville, au Nigeria et autres. Nous n'avons pas de grands partis susceptibles de mobiliser à eux seuls le quart de l'électorat. Il faut donc fédérer les énergies. Et c'est dans cette fédération d'énergie qu'on en arrive évidemment à la stratégie de mettre en place les regroupements politiques. Mais alors, c'est dans ce cadre-là que le FCC, évidemment, qui aujourd'hui apparaît comme un groupe politique très pléthorique, qui rassemble non seulement plusieurs partis, mais aussi plusieurs, plateforme politique. Alors, ce caractère pléthorique est à la fois une force et une faiblesse. Une force parce que quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que presque toutes les institutions du pays, en dehors du président de la République, évidemment, il les contrôle. Mais c'est aussi une faiblesse. Et la faiblesse, on la constate aujourd'hui. Évidemment, le premier à dire non, c'est Bahati Lukwebo qui relance la problématique, évidemment, de la gestion des ambitions au sein du FCC. Comment les ambitions sont gérées. Et donc, non seulement comment les ambitions sont gérées, mais aussi l'exercice même de la démocratie au sein des groupements politiques. Évidemment, on nous dit qu'on a désigné X, on a désigné Y. Quelles sont les procédures démocratiques qui ont débouché vers ces désignations? Et donc, est-ce que le fait que Bahati Lukwebo ne soit pas d'accord avec la désignation n'est pas également une remise en cause de processus qui conduisent à la désignation de différents candidats? Et cette question n'est pas seulement une question propre au FCC, on la retrouve également dans d'autres groupements politiques qui n'ont pas encore mis en place, si vous voulez, des procédés démocratiques dans l'exercice du pouvoir au sein des groupements politiques. Et donc, ça va être un véritable problème, étant donné que les groupements politiques sont devenus des acteurs majeurs du jeu politique en RDC.
Et donc, ça remet sur la table, n'est-ce pas, cette question de gestion des ambitions au sein des groupements politiques.
Et effectivement. Et donc, ce que l'on craint, c'est que, en fait, la défection de l'AFDC ou bien de Bahati Lukwebo ne soit en fait que le début d'une mécanique qui pourra s'accélérer avec la mise en place du gouvernement, parce que rassurez-vous, la mise en place du gouvernement va créer beaucoup de mécontentement, étant donné qu'au sein de cette méga plateforme politique, il y a beaucoup d'ambitions politiques qui s'expriment et il sera très difficile de redistribuer les cartes à tous les acteurs qui continuent à attendre évidemment de faire partie de la gestion. Il y a là une bombe à retardement qu'il faudra gérer au niveau du FCC.
Professeur, ce qui rend intéressante cette élection, est-ce que c'est le fait que Modeste Bahati Lukwebo et Alexis Thambo Mwamba, deux poids lourds de la scène politique de la RDC, s'affrontent pour occuper le poste du président de cette chambre haute du Parlement? Ou c'est plutôt le fait que la Constitution prévoit qu'en cas de vacances, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République, c'est au président du Sénat d'assumer et d'assurer l'intérim. Est-ce que c'est la présence des deux poids lourds ou l'importance stratégique des postes qui rend intéressante cette élection?
Le stratagème principal de FCC a été évidemment de reconnaître que nous avons perdu le poste de président de la République, mais que nous devons absolument contrôler toutes les autres institutions politiques. Donc, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Et donc, dans la nouvelle configuration, perdre le Sénat et serait, à mon avis, un début d'échec de cette stratégie qui, pour le FCC, consister, si vous voulez, à mettre la main sur les principales institutions du pays. Et donc ça, c'est un premier élément. Et de ce point de vue, il y a une mobilisation générale pour ne pas perdre donc le Sénat. Et quand on sait bien que la fois passée, même quand ils avaient la présidence, ils avaient tout, eh bien, ils ont mal digéré le fait qu'ils aient perdu le Sénat au profit des Kengo Wadondo. Et donc, le deuxième argument, c'est celui que vous évoquez, le président du Sénat, et donc une personnalité importante, étant donné qu'en cas d'indisponibilité du chef de l'État, eh bien, c'est cette personne qui prendra les rênes, et donc l'autorité morale ne voudra pas voir cette position tomber entre la main d'une personne qu'elle a difficile à contrôler.
Oui, le jour du dépôt de candidature, Bahati Lukwebo avait affirmé, je cite, l'acte que nous venons déposer en donnant notre candidature confirme que nous voulons aller jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. Fin de citation. Et de son côté, Alexis Thambo Mwamba avait dit qu'étant donné que sa famille politique est majoritaire au Sénat, la victoire était certaine. Et donc, apparemment, tous sont certains de l'emporter. Professeur, quels sont les atouts ou les chances des uns et des autres? Les atouts ou les chances des Bahati Lukwebo et des Thambo Mwamba?
Alors, difficile de dire aujourd'hui qui véritablement a les cartes à main, Mais il me semble bien que ça penche plutôt vers Thambwe Mwamba, étant donné la très très grande mobilisation autour de cette élection qui est prévue le samedi, quand on sait que le FCC a manifesté par le passé une très très grande discipline dans le jeu électoral. Et quand vous regardez la manière dont les élections au niveau provincial se sont organisées, et dans la plupart des cas, évidemment, la majorité des membres du FCC avaient respecté les consignes de vote. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de mettre tout en place pour absolument remporter cette élection. Et donc, nous avons tous les yeux rivés vers le Sénat pour voir quel est le scénario que les sénateurs vont nous proposer le samedi.
Et si la victoire d'Alexis Thambwe Mwamba arrangerait le FCC et son autorité morale, celle de Bathily Kwebo pourrait profiter à qui?
Il faut regarder le FCC et en face, vous avez Cash. Et de mon point de vue, le FCC, s'il traduit par cette élection cette volonté de tout contrôler, eh bien, le fait pour le FCC de ne pas contrôler le Sénat va plutôt profiter à Cash. Parce que Cash ne voudra pas voir d'un très mauvais œil le fait que le FCC prenne tout et ait le contrôle de tout. Il faut donc équilibrer les forces politiques. Et l'équilibre des forces politiques passe également par là. Il ne faudra pas que le FCC ait le contrôle de toutes les institutions de l'État. Ça va véritablement nuire au Cash, tant il est vrai qu'ils sont dans une coalition compliquée.
Christian Moleka, analyste, vous êtes coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. On sent comment les profs l'a relevé ici, on sent comment le FCC s'investit pour occuper ce poste du président du bureau définitif du Sénat. Et à votre avis, quelles pourraient être les conséquences politiques d'un éventuel fiasco ou échec du candidat Alexis Thambwe Mwamba?
Merci pour la question. Je crois que si... Par circonstance, le ticket FCC perdait le samedi. La conséquence la plus directe, c'est qu'on aura un léger retard pour la formation du gouvernement, parce que le FCC certainement tirera les leçons de l'échec et donc des votes de chaque regroupement. Éventuellement, la reconfiguration du gouvernement viendra pousser la sortie du gouvernement avec quelques mois de retard ou quelques semaines de retard, parce qu'il y aura des règlements des comptes, bien évidemment. Ce sera le premier constat. Le deuxième, c'est qu'en cas de victoire de Bahati, on pourrait, c'est un scénario extrême, on pourrait assister à l'implosion de la majorité. Et si implosion de la majorité, c'est-à-dire la configuration même de la majorité parlementaire peut changer au niveau de l'Assemblée nationale, la première chambre, et s'il y a changement, on pourrait, je suis dans les conditionnels, on pourrait révoquer le premier ministre Lukamba parce qu'on a une nouvelle majorité, il y a des signes informateurs qui chercheraient la nouvelle majorité, et donc dans tous les deux cas, le gouvernement sera repoussé de quelques mois. Donc la conséquence la plus immédiate, c'est qu'on pourra, ne pas avoir le gouvernement ce mois-ci, peut-être dans 2-3 mois, et que soit la majorité pourrait changer, et dans ces cas-là, on aurait un informateur qui rechercherait la nouvelle majorité.
Et donc, du coup, il se pourrait que Bathily Kwebo pourrait, n'est-ce pas, constituer une troisième force politique au sein de la coalition au pouvoir.
Mais c'est parce que tout le paysage aura changé. Il faudra identifier le nouveau paysage qui se mettra en place, savoir qui s'allierait avec qui resterait dans l'ancienne majorité FCC. Et tout ça s'observerait au fur et à mesure que les choses seront plus claires. À ce stade, attendons voir si les élections vont confirmer la victoire au nom du FCC.
Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver sur le plan politique si c'est Bathily Kwebo qui échoue à cette élection?
Il est le premier gagnant. Qu'il perde ou qu'il gagne, il est le premier gagnant parce qu'il s'est construit une sorte de ténacité, de celui qui s'oppose à l'autorité morale, et donc il gagnera un peu en aura. Ce serait à lui de gérer maintenant s'il y aura des doublements ou non de sa formation politique, parce que c'est un cas qui peut se mettre en œuvre. Et bien évidemment, ça générerait un peu le cash s'il faudrait demain avoir alliance avec Bahati alors qu'il est allié avec Kabila. Et donc on pourra assister à un troisième pôle qui se mettra en place entre le cash et les FCC, et un troisième pôle qui pourra peut-être à la longue soit rejoindre les cash, soit évoluer seul.
Les cash est absent de cette élection, mais la Mouka postule à la question et au poste du rapporteur adjoint. Et comment on peut expliquer, n'est-ce pas, les options des uns et des autres? Les cash préfèrent ne pas être là, mais la Mouka postule?
Déjà, il y a le fait que, pour raison de notre attentivité, on devait avoir l'opposition dans le bureau. Et donc, si la MOCA estime que, parce qu'il y a une place pour la opposition et une place pour une femme, elle pourrait jouer cette carte-là, ce serait intéressant. Mais un autre facteur qu'il faut mettre en jeu, c'est que si vous voyez la configuration des candidatures présentées, vous avez deux candidatures tournées vers l'est du pays. C'est l'Ituri, le Sud Kivu, le Katanga, le Kasaï, et l'espace Nekongo n'est pas représenté. Le Bandundu et le Bakongo n'a pas de candidat, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et donc, la candidature de Soda Kamitatu, qui est du Bandundu, pourrait venir dire, voilà, nous proposons une opposition du Bandundu qui permettrait de rééquilibrer ce qu'on n'a pas pu faire au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Alors, vous avez dit que l'éventuel échec de Alexis Thambo Mwamba pourrait avoir comme conséquence d'abord un léger retard pour la formation du gouvernement et puis aussi éventuellement l'implosion de la majorité présidentielle, mais de la majorité plutôt parlementaire. Mais est-ce que vous pensez que l'AFDCA débat qui est avec lui aujourd'hui dans les contextes du moment a assez d'élus qui peuvent faire basculer la majorité de l'autre côté?
C'est très difficile parce que si vous voyez la configuration du Sénat, l'opposition, au sens la Mouka et Cash, ne font que, je crois, entre 9% des sièges. Ils ont 6 et 7, 3. Alors que Bahati lui-même en a 13. Donc, numériquement, il n'a pas la cise assez large pour avoir une majorité, à moins de diviser ou de piocher au sein du FCC. Et là, c'est la conduite personnelle des élus qui va jouer. On sait qu'il y aura de consignes des votes, des mots d'ordre, comme on est habitué à le dire. Mais on verra si dans les urnes, les élus respecteront les mots d'ordre ou non. Donc, s'il veut gagner, il faudrait qu'il pioche au sein du FCC et verrons voir si les mots d'ordre ne seront pas respectés.
Et on apprend, évidemment, il est difficile de vérifier une telle information. On apprend que beaucoup d'argent circule pour chercher à soudoyer les sénateurs. Est-ce qu'il est impossible dans ces pays de faire des élections sans pour autant chercher à soudoyer les électeurs?
Nous sommes en train de plus en plus de basculer dans une démocratie plutocratique, comme on dit, démocratie des riches, parce que tous les scrutins indirects se font autour des spéculations d'argent, que ce soit pour les élections de gouverneurs, les élections de sénateurs eux-mêmes, et aujourd'hui du bureau du Sénat. Et donc ce sont des spéculations qui sont habituelles. Vous rappellerez que le président de la République avait suspendu les élections sénatoriales au prétexte qu'il y avait des suspicions de corruption, que le procureur devait nous aider à porter la lumière sur la chose.
Suspendu l'installation du Sénat.
Exactement. Et jusqu'à ce jour, la lumière n'a pas été apportée sur les allégations de corruption. Donc c'est plus en plus habituel et ça ne m'étonnerait pas qu'autour de cette élection également, nous assistions à de telles spéculations ou à de tels décrimons.
Joseph Kongolo, analyste politique, vous êtes aussi coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Votre analyse par rapport au débat autour de cette élection qui va se tenir samedi prochain au Sénat?
Bien, merci beaucoup. Je voudrais saluer le professeur et mon frère Moleka. Je voudrais dire ici que, encore une nouvelle fois, nous assistons à l'émergence des fractures au sein de la classe politique congolaise, qui affaiblit vraiment cette classe politique et surtout les lignes politiques, n'est-ce pas, que les gens se sont données. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je continue à croire, parmi, disons, les différentes hypothèses, que le départ de Bahati, n'est-ce pas, du FCC, peut être une stratégie interne du chef de l'État, avec, comme l'a dit le professeur, une pléiade des personnalités politiques qu'on ne sait pas gérer, dont on ne sait pas gérer les ambitions. Il peut créer une deuxième aile qui va encore récupérer une bonne partie. Mais je considère, je serai preuve du contraire, que Bahati reste fidèle au président de la République, à l'autorité morale du FCC, n'est-ce pas, sans être au sein du FCC.
Donc ça peut être une diversion.
Une diversion. Donc, il peut rester fidèle au président, en fait, à l'autorité morale, n'est-ce pas, du FCC, sans être dans le FCC. En ce moment-là, le président a deux branches, pour que chaque fois quand il commet des erreurs, il peut récupérer, n'est-ce pas, par une autre branche. C'est aussi une possibilité. Donc, je n'attends pas beaucoup de choses, n'est-ce pas, de la victoire de l'un ou de l'autre par rapport à l'enjeu. Mais l'enjeu majeur, comme vous l'avez posé ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que on a remonté les enchères tout simplement parce que l'arme l'arme de la majorité, enfin de la majorité parlementaire aujourd'hui, c'est cette arme qu'on brandit sur la destitution du chef de l'État, et qu'en retour, c'est le président du Sénat, n'est-ce pas, qui pourrait faire l'intérim. En fait, ce n'est qu'une arme, politique, évidemment, qu'on rému, tout comme de l'autre côté du cache aussi, on rému l'arme, n'est-ce pas, de la dissolution du Parlement. Ce sont des armes politiques pour empêcher seulement le président. Mais je sais que juridiquement parlant, c'est pas facile de destituer un président élu par procédure juridique. Je crois que c'est pas du tout facile, mais nous sommes de bonne politique, n'est-ce pas, qu'on puisse brandir, n'est-ce pas, toutes ces armes. Mais au sein de la majorité, au sein du FCC, je considère, jusqu'à preuve du contraire, qu'on a choisi tout simplement les durs du FCC. Vous avez un dur brut, c'est un Bomamba, et qui est dur, le fidèle des fidèles. Il est très fidèle au président de la République, enfin à l'ancien président de la République, et je crois qu'il peut incarner les intérêts du président de la République. Mais il est brut, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il veut et tout ça, de n'importe quelle manière. Mais vous avez de l'autre côté Bahati, qui est aussi fidèle, parmi les fidèles du président de la République, qui a aussi des compétences, n'est-ce pas, considérables. Mais, en fait, vous avez un dur mais fin. Il est très fin. Bahati n'est pas un homme extérieur, c'est un homme interne, un homme très fin, difficilement fidèle, mais très fin. Et je pense que c'est une stratégie tout simplement du FCC de vouloir créer cet engouement autour tout simplement de cette élection. En fait, c'est une guerre interne, mais le président sait contrôler les deux ailes.
Guerre interne au sein du FCC, mais aussi, non seulement le cash n'a pas postulé, mais aussi il est resté silencieux. Comment vous expliquez l'attitude du cash? Est-ce que cette attitude reflète un certain réalisme, ou plutôt c'est de façon stratégique que le cash a préféré, n'est-ce pas, afficher cette attitude?
Je considère aussi une nouvelle fois que cash Lamouka reste les jumeaux, n'est-ce pas, d'une même branche. Je considère encore que l'absence du cash, n'est-ce pas, au Sénat, l'absence du cash pratiquement au Sénat, je crois que ça fait l'ombre, ça laisse de l'espace à Lamouka de pouvoir décrocher quelques postes. Ce n'est pas anonyme, n'est-ce pas, de voir cash absent, n'est-ce pas, de cette élection. Je suis très sûr qu'en sourdine, d'une manière très souterraine, il doit y avoir des contacts à un certain niveau et tenter, n'est-ce pas, pas une sorte de coalition, je ne sais pas ce que je peux dire, mais au moins, quelque part, il y a un appel de pied et il faut que Lamouka soit présent pratiquement dans les institutions malgré son absence, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale.
Alexis Thambo-Mwamba venait d'affirmer que, à supposer que par impossible l'étiquet FCC ne passe, il apparaîtra clairement à la face du monde que notre majorité est factice. Cela veut dire que l'FCC est à la croisée des chemins et que cette élection va déterminer son avenir, comme l'a dit Christian Moleka.
Effectivement, avec raison. Vous savez, il y a d'abord le G7 qui est sorti, n'est-ce pas, de l'ancienne majorité présidentielle. C'était un coup dur pour cette majorité. C'est un coup très dur. Donc il y a un problème au niveau de la gouvernance, n'est-ce pas, au niveau de cette plateforme, il y a un problème de gouvernance. Vous avez beaucoup de personnalités politiques dont vous ne savez pas gérer les ambitions. G7 est parti à cause de cette tergiversation sur la vision, sur les méthodes, sur les stratégies à adopter. G7 est parti, je crois que ça a été une blessure, c'était une fissure qui était déjà ouverte. Aujourd'hui, nous avons presque le même schéma qui se reproduit, n'est-ce pas? Vous savez, pratiquement à la veille des élections sénatoriales, c'est un poids lourd aussi encore qui fait défection et qui dénonce les méthodes, n'est-ce pas, dictatoriales, n'est-ce pas, de gestion au niveau du FCC. Je me dis que c'est une fissure qui a pris de l'espace, qui s'est ouverte, tout simplement, et cela risque d'être fatal pour cette majorité, pour nous. Enfin, nous sommes des observateurs de la scène politique. Nous savons effectivement qu'elle n'est pas trop efficace. C'est vrai, elle est mastodonte, mais en réalité, les relations internes ne sont pas si dures, si stables pour pouvoir maintenir cette majorité aussi longtemps. Je crois que ce choc risque encore de créer beaucoup de dégâts.
Et cette forte mobilisation du FCC autour de la candidature de M. Alexis Thambo-Mwamba, est-ce que ça ne reflète pas le fait que le FCC redouterait, n'est-ce pas, les scénarios de l'élection du gouverneur au Sankourou, où l'étiquette FCC a échoué devant un indépendant dans une assemblée dominée par le FCC, ou le scénario de 2007 avec l'élection de Léon Kengo dans un Sénat qui était à majorité occupé par l'ancienne majorité présidentielle?
Exactement. On évite que l'histoire se répète. Voyez, on évite que l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'en 2007, ils ont vécu la même sale expérience. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps aussi, au Sankourou, ils ont vécu encore la même expérience avec 22 députés sur 25, et tout de suite, c'est le contraire au résultat. Donc, je crois que la forte mobilisation est due aussi à des leçons qu'ils tirent, tout simplement, de l'échec récent qui, au niveau de Sankourou. Mais je pense que, jusqu'à preuve du contraire, il y a des valeurs intrinsèques, des valeurs humaines intrinsèques de chaque candidat qui risquent, n'est-ce pas, de départager l'un et l'autre, n'est-ce pas, ces élections. Ça peut jouer aussi dans l'appréciation, dans le processus électoral.
Professeur Félicien Kabamba, vous allez réagir à cette réflexion qui vient d'Isiro.
Je ne viens à Isiro, province de où elle est. Contrairement à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'élection du bureau définitif de Sénat et de tous les enjeux politiques et d'espoir pour le peuple congolais. D'autant plus que ce sont des sages qui ne sont pas à l'abri des intimidations ou injections politiques. À mon avis, c'est la conscience et l'engagement de chaque sénateur qui va faire en sorte que le choix puisse porter sur la vision, l'engagement et la détermination de chaque candidat pendant la campagne et non sur une considération ou appartenance politique. Car le changement de notre pays viendra dans l'éveil de conscience de chaque Congolais et non sur une seule personnalité.
Professeur Félicien Kabamba.
Le FCC a l'avantage d'avoir une philosophie d'encadrement de ses élus. Et ils en ont fait la démonstration depuis longtemps. Ils ont cette capacité de mettre ensemble leurs élus et par une pédagogie politique très 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 bien montés, ils savent comment persuader leurs élus à être disciplinés et ça a été pendant très longtemps leur force. Mais il faudra dire aussi que le FCC a travaillé sur un stratagème bien monté qui a consisté, si vous voulez, à dire ok, le chef de l'État existe, il a suffisamment de compétences et de pouvoirs que la Constitution lui attribue, lui confère. Mais nous ne pouvons pas faire le gouvernement, nous ne pouvons pas faire une majorité sans lui. Donc, qu'est-ce que le FCC fait? Le FCC fabrique sa majorité et donc, ils prennent le soin de prendre le chef de l'État, de le mettre au sein de la majorité, mais en prenant le soin, évidemment, d'éviter d'en faire le chef de cette majorité. Non, le chef de l'État n'est pas le chef de la majorité. Et donc, il doit donc apprendre à conjuguer avec l'autorité morale du FCC. C'est cela également qui, aujourd'hui, occasionne, si vous voulez, cette difficulté à mettre en place un gouvernement, parce que vous avez là deux personnes qui doivent conjuguer et qui doivent trouver des terrains d'entente, et ce n'est pas du tout facile.
Voilà.
Et si, évidemment, le chef de l'État était le chef de la majorité, les choses iraient beaucoup plus rapidement. Et donc, aujourd'hui, on est dans un cas de figure où le chef de l'État regarde comme un spectateur ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, il n'a pas de pion, il n'a pas de pion à l'intérieur du Sénat pour participer à ces jeux politiques qui est le jeu électoral. Et donc, il s'agit plutôt d'un déplacement de perspective vers l'autorité morale du FCC. Et donc, le chef de l'État est un spectateur.
Vous venez d'évoquer cette discipline qui caractérise le FCC. À votre avis, cette discipline est fondée sur une certaine conviction ou c'est plutôt fondé sur la peur, l'inquiétude? On a vu ce qui est arrivé à Bahati Lukwebo lorsqu'il a semblé passer outre cette discipline, lorsqu'il s'est comporté à l'encontre, n'est-ce pas, de la logique qui fonde le FCC.
Non, mais je crois qu'on était dans une logique de continuité. Il faut voir comment l'ancienne majorité présidentielle a fonctionné pendant un temps. Et la plupart des acteurs sont revenus. Et donc, il s'agit là on est dans une continuité. Mais je voudrais mettre une réserve. Peut-être que cette discipline qu'on a observée pendant tout ce temps va nous montrer ses limites. Va certainement nous montrer ses limites. Les choses ont été plus faciles quand l'ancien chef de l'État était au pouvoir et donc avait toutes, si vous voulez, toutes les institutions du pays, il contrôlait l'appareil de l'État, il pouvait donc contrôler les mouvements des uns et des autres, et aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas, et je crois probablement que les choses pourront changer dans les jours à venir, parce qu'il faut dire que par le passé, il n'était pas facile de dire non au chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'une des personnes qui lui était assez proche et a participé évidemment à tout le gouvernement, c'est bien cette personne-là qui lui dit « Non, je n'accepte pas ton choix ». Il s'agit d'une grande leçon.
Oui, nous l'avons relevé ici, l'une des particularités de cette élection, c'est l'absence des caches, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne manifeste pas l'embarras dans lequel se trouve caches du fait qu'ils n'ont pas la majorité, qu'ils ne contrôlent pas la majorité parlementaire, comme vous l'avez relevé ici?
Oui. Alors, il y a là, évidemment, une leçon que nos amis du FCC donnent, c'est-à-dire à partir du moment où ils se disent en coalition, ils auraient pu réserver à un membre de la coalition un poste au sein du Sénat, mais là, il y a un argument qu'ils mettent sur la table, c'est que les caches
n'a pas postulé.
Ne représentent pas grand-chose au sein du Sénat. Et donc, parfois de conséquence, eh bien, ils ont choisi carrément de le mettre de côté.
Alors comment vous analysez une telle stratégie? Non, une stratégie c'est... qui consiste à avoir tout seul et au détriment, n'est-ce pas, de l'allié.
Alors, il y a là un Sénat qui est pratiquement monocolore. Pratiquement monocolore. Et quand vous regardez les autres, quand vous avez une institution politique qui est une institution élective, et où 90% de membres qui composent un peu plus de 85, je vais dire, viennent d'un seul courant politique, là, je vous assure qu'il y a quand même un problème. Et il fallait corriger cela avec la représentation au niveau du bureau, mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Le paramètre qui est mis sous la table, c'est celui d'une proportionnalité en fonction du poids politique. Et donc, comme le cash ne pèse pas tellement au sein du Sénat, et donc il a été jugé par nos amis du FCC de ne pas, si vous voulez, le voir présent au sein du bureau.
Christian Moleka, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud de Kivu. Solliciter une voix de chaque sénateur, c'est bien. Mais il serait plutôt souhaitable que chaque sénateur puisse se dépasser et voter utile. Le vote subjectif devrait être évité car il y va d'abord de l'intérêt de la nation et non de celui du parti ou regroupement politique de chaque candidat. N'est-ce pas que le mandat dont chacun des candidats se prévaut, malgré son parti ou le regroupement politique, est d'abord le mandat du peuple congolais au sein de cette institution politique du pays?
Christian Moleka.
Je dirais à Robert mais que le jeu politique est un jeu partisan, et donc un jeu partisan est un jeu subjectif. Il s'agit des calculs et des intérêts. On ne peut pas demander aux élus qui représentent des intérêts et donc des groupes partisans de voter sans tenir compte de leur appartenance. Ça ne peut pas se faire. Le jeu politique est un jeu partisan. C'est à l'électeur de comprendre que lorsque je vote, je participe à forger la majorité de demain. Et donc, c'est à travers mon vote que je choisis qui seront majoritaires ou qui ne le seront pas. C'est à ce niveau-là que ça doit se jouer, les votes utiles. C'est au niveau de l'électeur, au souverain primaire. Mais au niveau des acteurs politiques, c'est un jeu politique, c'est un jeu de calcul, c'est un jeu de positionnement stratégique. Et ça ne se fait pas avec des états d'âme, ça se fait avec des objectifs de la plateforme à laquelle on appartient.
Alors, comment vous analysez l'attitude du cash par rapport à ces élections?
Je peux dire que c'est réaliste parce que ils ne sont presque pas dans l'Assemblée. Comme l'a dit le professeur Kabamba, quand vous avez un parlement monocolore. En 2006, il faut le rappeler, hein, en 2006, le MLC, qui était la deuxième force au Parlement, avait 20% d'élus. 20%, je crois 14 sénateurs. Et donc, vous aviez un peu perdu, qui était à pas très loin. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a 90%, c'est énorme, 90% qui appartient à un bloc. Et donc, dans la représentation, il est fort logique qu'ils prennent le gros du lot. Et comme on doit réserver un poste à l'opposition, et comme le FCC lui-même est pléthorique, voyez la composition du bureau, vous avez AAB, vous avez PPRD, vous avez les alliés qu'il faut contenter. Déjà, l'AFDC s'est défait lui-même parce que dans la configuration, le PPRD a pris 2 sièges. Le PPRD a aligné 2 candidats. Donc la répartition au sein de la plateforme elle-même est problématique, et s'il faudrait encore donner au cash, ça risque de ne pas suffire.
Comment vous réagissez à l'analyse de Joseph Kongolo qui estime que la radiation de Bahati serait une diversion au sein du FCC?
Je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Moi, je pense que je prendrai l'autre revers du raisonnement. La première bataille démocratique qu'on a menée, on a menée pour conquérir l'espace public. C'est-à-dire la démocratie était, on a le droit de parler, on a le droit de voter, on a le droit de choisir des dirigeants. La prochaine bataille démocratique pour le pays, ce sera dans l'espace privé, au sein des partis politiques, sur notre façon de gérer les acteurs au sein de partis politiques. Et là, c'est ça la bataille que peut-être a lancée Bahati sans s'en rendre compte. Il a ouvert le débat sur la démocratie au sein de plateformes, au sein de regroupements. Et donc, puisque nous avons gagné, entre guillemets, l'ouverture de l'espace public, la liberté d'expression, le droit de choisir nos dirigeants, entre guillemets, la prochaine bataille serait peut-être de commencer à l'intérieur du parti politique, d'ouvrir l'espace pour qu'il y ait une gouvernance plus démocratique et moins autoritaire et dépendante d'autorité morale. C'est peut-être les débats qu'il a lancé inconsciemment. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la chose et non une diversion du FCC.
Joseph Kongolo, cette réflexion qui vient de Kisangani, vous allez réagir à ça?
Ougane Mungwaju et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. En se référant à l'idéologie de cette chambre haute qui contient des personnes âgées et mûres d'expérience quasi irréprochable dans la société, nous osons croire qu'elles feront un vote utile. Mais M. Bahati, tout comme M. Alexis Tambwe, tous deux n'ont pas eu la confiance du peuple dans leurs provinces respectives. Et ce n'est pas à la présidence du Sénat que nous pouvons espérer arriver grand-chose. Ce sont juste des discours des hommes politiques remplis du populisme tendant à séduire les naïfs. Pour moi, ce sont les oiseaux des mêmes plumages qui ont chacun une mission personnelle et bien définie. Je n'ose pas croire que les sénateurs du FCC vont cette fois-ci violer les consignes de leur plateforme.
Oui, Joseph Kongolo.
Oui, je respecte bien son point de vue. Dans le jeu politique, comme venait de le dire tout à l'heure Christian, c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Je crois que la gestion au niveau des différentes plateformes qui sont en compétition aujourd'hui, ils ont fait le choix. Et le choix ne porte pas seulement sur un élu. Donc, on peut ne pas être élu et ne pas être, par exemple, élu au premier niveau, hein, c'est-à-dire qu'au suffrage universel direct, non. On n'a pas été élu à l'intérieur. On est déjà sénateur, on est élu au deuxième degré. C'est qu'on est aussi quelqu'un qui est choisi par le peuple, par, n'est-ce pas, personne interposée, c'est-à-dire les grands électeurs. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ce sont les produits, les mêmes oiseaux, tout ça. Je pense, je lui fais vraiment... Je lui donne, c'est son point de vue, je l'accepte, mais ce que je veux dire ici, c'est que une idéologie sur la chambre haute, n'est-ce pas, du Parlement, je ne pense pas vraiment que nous soyons à ce niveau-là. Nous sommes à un niveau tellement rudimentaire que l'idéologie qui soit assise et stable pour une chambre haute, je crois que c'est un peu la rêverie aujourd'hui. Nous sommes en une situation élémentaire, nous sommes au niveau brut où on doit construire des valeurs et aussi des missions précises, n'est-ce pas, et des gens qui sont véritablement, comme il a dit lui-même, des sages. Nous sommes très loin de là. Nous sommes très loin de là. Nous sommes dans la forme. Nous sommes en train de planter pratiquement des institutions et c'est peut-être avec le temps qu'effectivement le Sénat comprendra des gens irréprochables jusqu'à une certaine mesure. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans la foule où on n'a pas encore fait la distinction et peut-être surtout la sélection.
Il y a des poids lourds au FCC qui, l'un, n'est-ce pas, postule pour la présidence du Sénat, l'autre pour la vice-présidence. Et comment vous entrevoyez ce scénario où l'un passe et l'autre échoue? Il s'agit d'État Mwamba et Evariste Bouchabe. L'un passe et l'autre échoue.
Je crois que c'était une stratégie à l'intérieur du FCC. En cas de l'échec de l'autre, eh bien, l'autre peut faire le contrepoids pratiquement du président qui passe, c'est-à-dire Bahati. Donc le vice-président Bouchabe peut faire valablement le contrepoids, n'est-ce pas, de l'autre, voyez-vous. Donc c'est une stratégie interne qu'ils ont dû faire. Mais personnellement, je considère que la gestion d'un bureau dans une chambre parlementaire, elle est tellement codifiée, n'est-ce pas, que faire le contrepoids ne serait pas si facile parce que on a tout le risque de faire imploser la gestion, n'est-ce pas, d'une institution parlementaire comme celle-là. Je pense plutôt que Tambwe-Momba et Boshab, j'ai compris que l'un, le président peut l'appeler à d'autres fonctions et peut-être l'autre aussi essayer de récupérer l'autre. Bon, c'est une stratégie, c'est une stratégie.
Et comment vous entrevoyez l'issue de cette élection au bureau définitif du Sénat?
Comme je l'ai dit, le cash a préféré prendre des distances, mais en réalité, en politique, ils n'ont pas pris de distance. C'est sûr qu'en coulisses, il doit y avoir des contacts avec... Vous avez par exemple, à la première vice-présidence, vous avez l'ancien Premier ministre.
Sami Badibanga.
Sami Badibanga, vous avez pratiquement les gens de l'opposition dans d'autres postes. Je suis très sûr que les gens vont se mobiliser, tenter dans la mesure du possible d'arracher deux ou trois postes, n'est-ce pas, pour l'opposition. Et peut-être là, derrière eux, le cash peut arriver à jouer le jeu qui lui convient. Donc, je ne suis pas très sûr que si cash est absent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Non, c'est parti. Une plateforme comme cash ne peut pas manquer d'intérêt, n'est-ce pas, au niveau du Sénat. Mais je crois qu'ils ont fignolé tout simplement leur stratégie pour se représenter autrement à travers d'autres personnes. La deuxième chose, c'est que l'alliance souffre. L'alliance souffre de la confiance mutuelle. Donc, c'est un élément extérieur, un élément indicateur de la souffrance de cette alliance aujourd'hui. Parce que quand vous êtes en alliance, c'est-à-dire que vous ne considérez plus le poids politique, ou le poids politique est considéré à un certain niveau, voyez-vous. Mais ici, parce qu'on est dans l'alliance, on ne pouvait fût-ce que laisser un poste, même un poste de questeur adjoint, n'est-ce pas, au cash. Mais comme ce n'est pas fait, c'est sûr que c'est un signe extérieur. La souffrance éventuelle, n'est-ce pas, de cette alliance.
Professeur Félicien Kabamba, comment vous entrevoyez l'issue de cette élection?
Ah, en tout cas, l'issue, jusque-là, elle est incertaine pour moi, parce que lors de l'élection du Sénat de l'exercice passé,
en 2007,
on a eu beaucoup de surprises. Et donc, il n'est pas exclu qu'on vive encore une surprise, mais je voudrais quand même insister sur une chose, c'est qu'en fait, les plaintes de Bahati concernant l'AFDC ont un soubassement également historique. C'est qu'en fait, durant tout le régime Kabila, Bahati avait toujours considéré que son parti, l'AFDC, n'a jamais été considéré, évidemment,
par rapport à son poids politique.
Et quand vous regardez les nombres de ministères qui étaient réservés, lui qui était la troisième force politique de l'ancienne majorité, eh bien vous dites que là il y avait un problème. Cette revendication, il la remet aujourd'hui sur la table pour dire, évidemment, ce qui s'est passé, ce que j'avais accepté par le passé, maintenant je ne l'accepterai plus. Il faut que vous puissiez tenir compte du poids politique de la FDC, parce que pour le moment, il a des alliés. Et il me semble que ce discours n'a pas été entendu, et donc il a choisi carrément de claquer.
Christian Moleka, on va se conclure. Comment vous entrevoyez l'issue de cette élection au Sénat?
Bon, quelle que soit l'issue, je crois qu'on est peut-être en train de vivre un tournant dans la vie politique congolaise, sur le débat démocratique à l'intérieur de plateformes, et que peut-être au sortir des élections, notre appréhension de la démocratie à l'intérieur des partis politiques où on a des monarques, parce que les seuls monarques qu'on a aujourd'hui, on les a plus dans l'espace public, on a au sein des partis politiques. Et peut-être que l'élection de Bahati sera un déclencheur, l'élection du président du Sénat, la présidence du Sénat sera un déclencheur pour ouvrir le nouveau tournant d'une démocratie au sein de formations politiques, quel que soit le gagnant.
Vous avez suivi Joseph Kongolo qui a dit que l'alliance FCC-CACH souffre de la confiance mutuelle, mais officiellement, le CACH soutient les tickets FCC au bureau du Sénat. Comment vous voyez cela? Comment vous expliquez cela?
Ils sont alliés, et donc ça peut se dire comme ça, mais on verra dans les urnes. La démocratie, on le voit après les urnes. On verra après les urnes ce qui va se passer.
Joseph Kongolo, votre conclusion?
Je voudrais dire que je demande à ceux qu'on a sont qualifiés de sages de jouer le jeu, de montrer un peu leur sagesse à partir de cette élection. Cette élection a beaucoup d'enjeux. Je crois que c'est à eux de calmer la population en votant utile et surtout en prenant les dispositions pour que la situation ne s'envenime pas.
Professeur Aymon, en guise de conclusion.
Eh bien, j'espère que tout ce jeu politique va participer à la consolidation de la démocratie et je souhaite bonne chance à celui qui va être élu comme président du Sénat.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Ngoy qui était à la technique. Merci à Dona Madimba et Kéline Kouté qui ont réalisé cette émission sous la supervision des Pélé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.